19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous démarrons cette toute nouvelle semaine en ce lundi avec un programme, vous le savez, au menu aujourd'hui, une émission un peu spéciale concernant donc les violences, lutte contre les violences faites aux femmes. On va en parler durant une heure jusqu'à 20h, nous sommes ensemble et on a une invitée qui a accepté volontiers aujourd'hui, évidemment après plusieurs échanges, aujourd'hui de venir témoigner. C'est pas simple pour elle de venir témoigner, de venir se livrer à la radio, et bien elle a accepté, je la remercie infiniment. Dans une poignée de minutes, nous allons la recevoir. À 19h30, le Quad 9 avec Maître Philippe-Henri Honegger qui viendra nous livrer son regard sur l'actualité de façon carte blanche, d'une signature, donc comme chaque lundi. Et puis vous aussi. Vous aussi au 01 53 48 3000. J'ouvrirai l'antenne tout à l'heure pour vous permettre tout simplement, chers amis auditeurs, échanger, venir. Vous avez été très nombreuses avec ces témoignages percutants, ces témoignages bouleversants la semaine dernière, hein, avec ces témoignages concernant les violences conjugales. Et bien aujourd'hui, je vais vous permettre d'échanger avec notre invité, ici même, en direct au 01 53 48 3000. Ça se passe dans les informés, nous sommes en chambre jusqu'à 20h. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Et notre invité, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, Hassina Hadj Larbi, bonjour.
Bonjour.
Alors madame Hassina Hadj Larbi, vous êtes attachée au ministère de l'Intérieur. Oui. Comment ça va dans le boulot?
Ça va.
Ça se passe bien?
Oui, ça se passe bien.
Vous êtes... l'état d'esprit est plutôt
oui.
Bon?
Oui.
Bon.
Oui.
Vous avez accepté aujourd'hui de venir à la radio sur Beurre FM. Vous êtes décidé, en tout cas, on a échangé beaucoup ensemble ces dernières semaines. On a échangé, évidemment, sur votre témoignage. On va parler de viol, d'inceste, d'agression sexuelle, de violence conjugale. Il se dit qu'aujourd'hui, la parole des victimes met parfois beaucoup de temps à se libérer. Ma première question, Hassina Hadj Larbi.
Oui.
Quel âge et à quel moment vous avez libéré, vous êtes libéré?
Alors, vous parlez de libérer la parole?
Oui.
Alors, il faut savoir que j'ai 50 ans. J'ai été abusée sexuellement de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 12 ans par 4 agresseurs, donc 4 pédophiles. Et j'ai gardé cette douleur, cette détresse, cette souffrance, cette torture en moi jusqu'à l'âge de 38 ans.
De 4 ans à 38 ans.
Voilà, à 38 ans.
Où ça j'ai, fait 34 ans. 34 ans de souffrance.
Tout à fait, sachant que j'ai 50 ans aujourd'hui. Hein. Et à 38 ans, j'ai déposé plainte contre un agresseur, un seul. J'ai pas déposé plainte contre les trois autres. Et
qui sont? Quel est le profil de ces agresseurs, si je puis me permettre, Hassina Hadj Larbi?
Alors,
si vous voulez en parler, bien sûr.
Alors, de toute façon, vous savez, dans les histoires d'inceste et d'abus sexuels dans l'enfance, ce sont toujours des proches. C'est toujours, ça se passe toujours dans la famille. Donc, en ce qui me concerne,
quand vous dites les proches, c'est les parents, c'est les frères,
c'est les
cousins,
c'est le père, c'est l'oncle, le voisin, le cousin. Voilà.
Hassina Hadj Larbi, je veux vraiment qu'on prenne le temps de comprendre, de mieux comprendre, parce que moi, votre histoire m'a beaucoup touché, et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse une émission autour, et la semaine dernière, ça a été quand même la semaine où on a beaucoup parlé des violences conjugales. La ministre de l'Égalité des Chances, Madame Elisabeth Moreno, que j'ai contactée,
oui,
sera avec nous très prochainement pour venir ici échanger sur les violences conjugales, notamment, puisque elle a permis, en tout cas, de poser plusieurs mesures concrètes, justement, en direction de ces femmes qui sont victimes aujourd'hui d'agressions sexuelles, d'inceste, de viols. Hassina Al-Ajlarbi, vous avez dit, à 38 ans, vous avez décidé de vous libérer. Comment ça s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur pour vous, pour en parler? Votre entourage, vos amis, votre compagnon, qui précisément vous a poussé à en parler 34 ans après? Je sais que vous avez 50 ans, mais à ce moment où vous avez 38 ans, c'est-à-dire il y a quelques années.
Alors, oui, quelques années, oui, ça fait quand même 12 ans. Alors, en fait, il faut savoir que ça a été trop, très douloureux de l'enfance jusqu'à 38 ans. C'est une mort intérieure. Hein. On vit dans... C'est vraiment une mort. On vit dans un sarcophage.
C'est le mal qui vous rongeait? C'est quoi qui vous rongeait à l'intérieur? C'est
déjà,
quoi?
On n'a pas d'enfance. Ça veut dire que quand vous avez 4 ans, 5 ans, que vous retournez à l'école, vous n'avez plus le même regard vis-à-vis des autres enfants. C'est comme si vous aviez 20 ans, 30 ans. C'est comme si vous aviez pris 20 ans, en fait. Donc vous n'êtes plus un enfant. Et du coup, vous avez un regard qui est complètement différent. Donc il y a un décalage entre l'enfant que vous êtes. Et que vous n'êtes plus en même temps.
Vous n'avez pas eu de. Vous n'avez pas eu d'enfance.
Donc il y a pas d'enfance parce que.
On vous a enlevé votre enfance.
Tout à fait, tout à fait. Donc il y a une dissociation. C'est comme s'il y avait votre corps ne vous appartient plus. Et c'est comme.
Vous aviez quel âge quand vous avez cette sensation?
J'étais à l'école maternelle. Je me souviens, alors le premier viol, j'étais en deuxième section de maternelle. Et c'était la période de Noël. Et quand je suis retournée à l'école au mois de janvier, ça a été terrible parce que j'avais des troubles du comportement. Alors que j'étais une enfant sage. Et l'institutrice me punissait constamment. Et je faisais sur moi, j'urinais sur moi. Et j'étais tellement insupportable qu'elle me changeait constamment de classe. Mmh. Et que j'avais des fessées régulièrement. Donc les troubles du comportement sont arrivés à ce moment-là. Ensuite, deuxième série.
Mais est-ce que vos parents, est-ce qu'à ce moment-là, votre mère, ce moment-là, est-ce qu'elle s'aperçoit évidemment de ces troubles de comportement? Vos frères et sœurs, est-ce que quelqu'un s'en aperçoit?
Ah oui, alors donc déjà il faut savoir que une mère ne peut pas ne pas savoir. C'est impossible. Hein. Une mère sait ce qui se passe dans son foyer. Les frères et sœurs, moi je me souviens que j'ai pris un compas et je l'ai planté dans la jambe de mon frère. Mmh. J'ai pris un stylo, je l'ai planté sur le visage d'un autre frère. Donc j'avais vraiment, j'avais une agressivité comportementale qui était sidérante. Je me souviens que je pouvais prendre, ma mère pouvait poser une casserole de pâte sur la table, je pouvais prendre la casserole et la jeter sur le visage d'un de mes frères. C'était toujours, je visais toujours la jante masculine, puisque j'ai 4 frères, c'était toujours les garçons que je visais.
Comme s'il fallait se venger?
Oui, oui, toujours.
Toujours.
Et j'ai toujours eu des conflits avec la fratrie.
À ce moment-là, vous avez 4 ans?
Oui, les premiers viols, oui.
Est-ce que vous décidez d'en parler à votre mère?
Mais en fait,
quand vous subissez ce premier vol à l'âge de 4 ans.
Mais la mère le sait. La mère le sait, puisque la mère, c'est elle qui vous lave, c'est elle qui vous habille, elle le sait.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit?
La première fois, je me souviens qu'elle était effarée et. Elle subissait aussi des violences conjugales, donc je crois que ça a été le fruit d'une dispute et d'un passage à tabac avec mon père. Et la deuxième fois avec l'oncle en question, sa mère m'a emmené une semaine à Verdun, donc chez l'oncle en question. Et pendant une semaine, cet oncle-là a abusé de moi dans une... tous les soirs, il passait dans la chambre où je dormais et il a abusé de moi tous les soirs. Et quand je suis revenue, j'avais dit à ma mère que j'avais mal derrière.
Vous aviez quel âge, Assina ?
Là, j'étais en troisième section de maternelle et mon postérieur à ma mère et ma mère a hurlé quand elle a vu. Elle m'a dit baisse-toi. Je me suis baissée, je lui ai montré mon postérieur quoi. Et, elle a hurlé et voilà, c'est tout ce dont je me souviens parce que je me souviens de la douleur et je me souviens que j'avais mal.
Parce qu'à ce moment-là. Évidemment, votre maman décide de rompre avec tout ça. Est-ce qu'elle décide de... Voilà, elle a hurlé, mais est-ce que hurler lui a suffi de passer à l'acte et d'aller voir son frère ? C'était son frère ? C'était...
Non. Non.
Ce fameux oncle ?
Ah non, pas du tout. Alors, il était à Verdun. Sa mère, je sais qu'il y a eu une dispute.
Donc, c'est le frère de votre père ?
Non, c'est le frère de, c'était le frère de sa mère, c'est un grand-oncle en fait. Une dispute éclate avec sa mère, je peux pas dire ma grand-mère, hein. Pour moi c'est une sorcière. Et ensuite, elle héberge sa mère et la vie continue, il se passe plus rien. Et les années qui suivent, elle continue d'entretenir de très bonnes relations avec sa mère, comme si de rien n'était.
Certains spécialistes parlent à ce moment-là d'un cerveau qui disjoncte et qui provoque un circuit émotionnel et la mémoire avec, qui est emportée. Est-ce que c'est ce que vous avez subi, vous aussi ?
Non. Alors, pour mon père...
parle de paralysie.
Alors, ce qu'il faut
savoir... D'une victime paralysée, complètement.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour mon père, je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais on va dire, j'ai rangé ça dans un tiroir de l'inconscient.
Donc là, c'est la honte et le silence.
Là, non, là, j'ai été dans le déni. Voilà, j'ai refoulé.
C'est pas le déni, c'est pas la honte ni le silence, c'est le déni.
J'ai refoulé. Mais il faut savoir que je l'ai détesté toute ma vie. Hein. Je l'ai refoulé. L'oncle, le voisin et le cousin... Non, ça a toujours été présent, ça. Ça, je ne l'ai pas refoulé. C'était présent, je l'avais en mémoire toute ma vie.
Et le silence, jusqu'à quand ?
Tout ça, c'était... alors, jusqu'à 38 ans.
Oui, le silence jusqu'à 38 ans.
Mon père, plus tard... C'est revenu plus tard, puisque par la suite, j'ai commencé une thérapie très tôt. Très très tôt, j'ai commencé à rentrer en thérapie. Mais il faut savoir que tout ça, je l'ai gardé en moi.
Donc les années passent.
Je commence.
Vous suivez une thérapie ?
Non, alors la thérapie, c'est. La thérapie, elle vient très tard. Je commence vers 8-9 ans à m'automutiler.
Et là, qu'est-ce qui traverse votre esprit, votre cerveau ?
En fait, très tôt, la mort. Dès 10 ans, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Je me souviens qu'un jour. Je voulais me jeter par la fenêtre et je commence à enjamber. Alors, on habitait dans un immeuble au 7e étage et je commence à enjamber la fenêtre. Et il y a la voisine qui hurle, qui me voit et qui hurle. Et donc, forcément, je fais un retour arrière, hein, je rebrousse chemin, et elle vient frapper à la porte de ma mère en lui disant « il y a ta fille qui veut jeter par la fenêtre ». Je pense que je devais avoir une dizaine d'années. Et là, il y a la mort, on a envie de mourir.
Et vous vous détestez ?
Mais pire que ça. Pire que ça, je me tire les cheveux, je me cogne la tête contre les murs, je fais des crises de nerfs,
À vous-même, vous en voulez à qui ?
J'en veux à la terre entière, j'en veux à ma mère, j'en veux à ma famille, j'en veux à tout le monde. Je prends des compas, les pointes des compas, je m'automutile les cuisses, je prends les lames de rasoir de mon père et je me coupe les veines jusqu'à ce que ma mère découvre cette automutilation et donc là c'est là elle est furieuse donc elle déverse une colère en moi et une brutalité et elle me dit d'arrêter tout de suite, puisque ma mère a été aussi très brutale et très agressive.
Assina, Lajlarbi.
Oui.
On va parler aussi de l'autodestruction.
Oui.
On va marquer juste la première pause pub, il est 19h16, le temps file. 01 53 48 3000. Je sais que c'est pas simple d'en parler.
Oui, oui.
Et que ça réveille en vous certaines douleurs.
Oui.
Je le sais, puisqu'en dehors de l'antenne, avant de prendre le direct, vous m'aviez prévenu, vous m'avez dit ça va réveiller chez moi certaines choses. Et je vous en remercie beaucoup, Assina Lajlarbi. 01 53 48 3000. Toutes ces femmes, évidemment, qui ont subi des violences conjugales peuvent venir en parler ici. Le standard est ouvert si vous avez aussi, y compris, d'échanger avec notre invité Assina Lajlarbi. Pas simple, je dois dire, effectivement. On va continuer de parler de ce que vous avez vécu. Viol, inceste, agression sexuelle, violence conjugale. Une vie pas facile, Assina Lajlarbi. On revient dans une poignée de minutes et on en parle juste après la pub. Reste avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les informés avec Adil Farkan.
Et les 19h23, si vous venez de nous retrouver, c'est Les informés avec notre invité qui a accepté évidemment d'être avec nous aujourd'hui dans Les informés, en ce lundi, Assina Lajlarbi, qui a elle subi depuis l'âge de 4 ans. Elle a subi évidemment des viols, de l'inceste de la part de son entourage très proche, de sa famille très proche, de violence conjugale, agression sexuelle. Aujourd'hui, elle a décidé de tout déposer, d'en parler, de briser le silence et de réapprendre à construire, enfin de tenter de réapprendre à construire. On continue d'en parler avec elle. 01 53 48 3000 aussi, vous pouvez aussi nous joindre. Nous vous attendons au standard. Direction, si vous voulez bien, Assina, Lajlarbi, on va juste prendre un auditeur.
Oui.
Nabil de Toulon. Bonjour Nabil. Bonjour Nabil. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue à vous.
Merci.
Vous avez écouté le témoignage poignant de notre invité.
J'ai écouté une partie du témoignage, la fin de son témoignage. Comment ne pas être touché, comment ne pas être choqué. Et en même temps, bravo elle de venir témoigner. Et l'importance de témoigner, autant pour elle que pour nous, en fait, hein, pour la société, parce que je pense que c'est vachement important de prendre conscience et par ses mots, par la description en fait, hein, de ce qu'elle a vécu.
Merci.
De vraiment du comment dire, on n'en trouve plus les mots tellement on a du mal en fait à croire qu'un être humain peut en arriver là. Mais bravo à elle, parce que c'est très important qu'elle puisse
un bon message de soutien. Assina,
merci Nabil. Merci.
Voilà, j'en venais en fait à ça. L'important, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait, je pense, se poser un petit peu la question sur ce genre de personnes qui font ça. Comment on peut continuer à les juger à des peines de prison ou à prendre autant de temps pour les juger. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment une personne comme ça peut être encore.
Exactement.
Pourquoi presque même, j'ai envie de dire, parce que c'est pas croyable. Enfin, je sais pas.
Vous voulez répondre à ça, cette interrogation, Assina. Merci Nabil de Toulon. 01 53 48 3000.
Alors, il faut savoir que dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années dans l'administration pénitentiaire. Alors, c'est pas un hasard, parce que quand en thérapie, on travaille aussi. Enfin, j'ai travaillé aussi le choix de mes orientations professionnelles. C'est que je m'occupais de la réinsertion des détenus et je me suis occupée aussi à un moment donné des pédophiles parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui poussait à l'acte. Et j'ai approché ces gens et j'ai même mis en place un jardin thérapeutique pour les détenus, ce qu'on appelle les détenus auteurs de mœurs. Je les approchais puisque je travaillais en détention pour la société GEPSA, gestion des établissements pénitentiaires et services auxiliaires dans les maisons d'arrêt semi-privées. Et
qu'est-ce que vous en tirez comme leçon?
Ben, en fait, bon, déjà, ils étaient en détention, donc c'était bien. Et moi, je m'occupais de l'insertion. Donc, je faisais en sorte de trouver des placements. Donc, il faut savoir que quand un auteur de mœurs d'actes de pédocriminalité est en fin de peine, il a toujours une peine aménagée. On fait jamais des sorties sèches. Donc, je faisais en sorte de les placer très loin, donc en province, sur des activités de jardinage et autres. Faire en sorte qu'ils soient pas à proximité des écoles et autres, mais je m'en suis beaucoup occupée parce que j'avais peur, en fait, j'avais peur qu'ils récidivent et qu'ils s'attaquent à d'autres petites filles.
Justement, revenons sur votre propre histoire.
Oui.
Assina Hadj Larbi. Vous savez, souvent les victimes ils disent, en matière de viol, on prend perpétuité. Vous avez pris perpétuité?
Évidemment, parce que, comme je vous le disais initialement, quand on a été victime d'abus sexuels, il y a une... Vous êtes mort de l'intérieur. Vous êtes brisé, mais il y a une mort en vous. Il y a une partie de vous qui est morte. Et ça, c'est à vie. C'est à vie. Vous êtes cassé, vous êtes brisé, vous vivez dans un sarcophage, vous vivez dans un cercueil, et ça c'est irréparable. Voilà.
Et comment vous trouvez la force justement pour tenir?
Alors, comme je le disais, il y a une...
Qu'est-ce qui vous fait tenir? C'est quoi cette énergie, cette force?
Alors, il y a une partie qui est brisée, mais si on puise dans son fort intérieur. Il existe une source d'énergie, mais je dis bien une source, mais faut vraiment aller la chercher. Et si on arrive à la trouver, il faut se rattacher à cette source.
Et c'est quoi cette source? C'est vos enfants, vos amis, c'est quoi?
Alors justement, en ce qui me concerne, pour ma part, ça a été mes enfants, le travail, mon travail, puisque... J'ai réussi à intégrer le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a aussi les orientations professionnelles. Pourquoi le ministère de l'Intérieur? Parce que le ministère de l'Intérieur, je me sentais protégée. C'est là aussi où j'ai rencontré mon tuteur, qui m'a accompagnée. Mon entourage, puisque j'ai de merveilleux amis d'enfance, sur lesquels j'ai pu compter toute ma vie. Voilà, ne serait-ce que ces trois piliers, ça a été important, mais le travail, le travail c'est important, et essayer de se projeter. Je dis bien essayer parce que en fait, c'est difficile de se projeter. Ouais. On essaye, mais je dis bien essayer d'avoir des projets, même si c'est compliqué, parce que la mort est toujours présente. On flirte avec la mort.
La mort est toujours présente. On reviendra justement sur votre propre histoire. On reviendra aussi sur ce moment de votre vie, depuis votre tendre enfance, ces viols, et puis ensuite l'inceste, et puis ensuite les violences conjugales.
Oui.
Vous avez été mariée, puis divorcée. Vous allez nous revenir sur évidemment ce moment, cette tranche de vie.
Oui.
Il est 19h31 précisément, et c'est l'heure du Quoi de neuf.
Les informés, le Quoi de neuf.
Le Quoi de neuf, c'est avec, comme tous les lundis, la signature de maître Philippe-Henri Yenneguer chez Ruben Associé. Bonjour mon cher maître.
Bonjour, comment allez-vous?
Mais très bien, je vais très bien. Vous allez signer aujourd'hui une carte blanche qui parle des programmes en matière pénale en France, de la France insoumise. On vous écoute, exactement. Mon cher maître.
En fait, vous m'avez dit qu'aujourd'hui j'avais peu de temps, donc je me suis dit que j'allais parler du programme de la France insoumise en matière pénale. Et pour tout vous dire, si je devais m'en tenir à ce qui a uniquement été dit hier par Jean-Luc Mélenchon dans son discours, je pourrais m'en arrêter là, en fait, en moins de 30 secondes, ça serait fini, puisqu'il n'en a strictement pas du tout parlé.
C'est ça.
Alors, j'ai dû me plonger un petit peu quand même dans le site internet de la France Insoumise et trouver dans les tréfonds quelques propositions qui ont été faites à mesure du temps. Je ne sais pas si elles sont toujours d'actualité ou pas, parce que certaines sont un peu anciennes, mais les propositions un peu fortes que j'ai pu retenir étaient les suivantes. 1. La création d'un récépissé dans les cas des contrôles d'identité. Vous savez, dès qu'il y a un contrôle, on a un récépissé, comme ça permet de savoir si ça a été légal ou pas. Deuxièmement, remplacer l'IGPN, vous savez, le contrôle de la police des polices, remplacer ce service qui est géré par les policiers par un service qui serait un petit peu plus ouvert à la société civile, faire venir des citoyens. 3. La suppression de la BAC, vous savez, la brigade d'intervention anti-criminalité qui circule dans les villes sans tenue de police. Et enfin, la légalisation du cannabis. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, et c'est vrai que on reste un peu sur notre fin, c'est-à-dire que je comprends que la France insoumise décide de mener une politique pénale contre la police, parce que dans l'ensemble, c'est ce qu'on comprend des propositions qui sont faites là. C'est un peu dommage de ne pas avoir de propositions contre la délinquance. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Moi, je ne suis pas le défenseur, vous savez, l'encouragement de la criminalité à tout va. La criminalité, les chiffres montrent, elle a plutôt tendance à baisser. Mais la criminalité, elle existe. Elle existe et on aimerait bien la faire baisser encore plus et peut-être que des mesures soient prises pour que ça continue à fonctionner. Et je m'étonne, vu l'actualité et le calendrier, il y a à peine la semaine dernière, vous savez, je vous parlais de cet appel à l'aide des magistrats, des greffiers qui disent on n'a pas les moyens, la justice elle est malade, on n'arrive pas à juger et c'est en raison pour cela qu'on n'arrive pas à lutter efficacement contre la délinquance. Moi, je m'étonne qu'aucun parti et aucun des discours de dimanche soir, dont celui de la France insoumise, ait repris cette proposition qui leur a été lancée et soit venu nous dire, nous, on va faire ce qu'il faut. On va tripler le budget. Vous savez, il y a un chiffre qui est sorti cette semaine. Sur 1000 euros de budget en France dépensé par l'État, 4 euros pour la justice.
Ah.
4 euros sur 1000.
C'est pas suffisant.
C'est ridicule.
C'est ridicule.
C'est pas digne d'une démocratie.
C'est ridicule.
Donc voilà, je m'étonne, j'allais dire, du vide de la France insoumise dans son programme pénal sur ce point. Je m'étonne aussi du vide sur les autres. Et je dirais que malheureusement, face à, vous savez, la surproduction de propositions parfois totalement hallucinantes des concurrents, notamment de droite, on a l'impression que la France insoumise de ce point de vue-là est peut-être un peu soumise, quoi.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur. Il était important de le rappeler. Comme chaque lundi, effectivement, vous faites un coup de projecteur dans chacune, effectivement, de ces aspects juridiques. Merci, mon cher maître Philippe-Henri Yenneguer, cher Ruben et associé. Bonne semaine qui se prépare pour vous.
Bonne semaine. Ouais, beaucoup d'audience. Beaucoup d'audience.
Beaucoup d'audience. Beaucoup d'audience. Eh bien, plein de courage à vous, mon cher maître. Merci. À lundi prochain. Avec autant de plaisir, 19h35, nous allons marquer la dernière pause pub et on se retrouve avec les violences conjugales, le nombre de victimes, vous savez quoi, Assina Hadj Larbi ? Eh bien, ils sont en hausse de 10% en 2020, ce qui est énorme.
Oui.
10%. 159 400 personnes, tous sexes confondus, ont été victimes de violences conjugales en 2020. Ça, c'est des stats du ministère de l'Intérieur, donc de chez vous, puisque vous êtes attaché du ministère de l'Intérieur. Eh bien, nous allons en parler dans une poignée de minutes, parce que vous-même, vous avez été victime, après l'inceste, après les viols, de violences conjugales par votre mari.
Oui.
On va en parler tout de suite après la pause pub. 01-53-48-3000, si vous souhaitez évidemment témoigner, apporter aussi votre témoignage, échanger notamment, ou poser une question, ou nous faire part, évidemment, de quelque chose qui vous a frappé. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés aujourd'hui, donc émission spéciale avec notre invité Hassina Hadj Larbi qui donc a subi des viols, des l'inceste, et puis aujourd'hui donc elle va parler elle de cette période aussi, de cette tranche de vie où elle a subi pendant son mariage des violences conjugales. Je disais tout à l'heure, je livrais quelques chiffres déjà inquiétants à première vue, hein, 159 400 personnes tous sexes confondus en 2020. Vous savez, une hausse de 10%, environ 87% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Soit 139 200, une proportion stable par rapport à 2019. Mais tout de même, en 2020, ces 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex. Elles étaient 146 en 2019. Donc autant dire qu'il y a de plaintes de plus en plus pour viol et agression sexuelle. Cela me permet à vous dire, vous avez vous-même, après vous avoir attentivement écouté, évidemment, avec ce passage extrêmement poignant lorsque vous étiez gamine, tout enfant, 4 ans, où vous avez vécu viol, inceste, et à quel moment vous vivez ces violences conjugales en permanence? Est-ce que c'était au moment du mariage? Est-ce que c'était avant, après? C'était à quel moment?
Oui, alors déjà, il faut savoir que j'ai été tabassée à l'âge de 20 ans par un de mes frères. Ensuite, à 23 ans, 24 ans, je rencontre un garçon à la fac. Ma mère s'en rend compte et elle me dit « tu vas te marier ». Donc, il faut savoir que cet homme, c'était une fréquentation comme une autre, quoi. Il n'était pas question de me marier.
Vous, ce n'était pas votre volonté.
Non.
Oui.
Elle voulait vraiment que je me marie. Donc, elle connaissait la mère de ce garçon. Elle organise tout. La date est posée. Alors moi, je me laisse porter parce que prisonnière des mœurs éducatives et puis d'une mère très autoritaire. Je me laisse porter sans dire mot. En même temps, il fallait partir du foyer parce que ma mère m'avait bien fait comprendre que j'étais en âge de me marier et que j'avais pas le choix. Donc la date est posée deux mois avant le mariage, je commence à subir des violences
conjugales.
Voilà. Donc,
agression à ma mère, sexuelle.
Non. Des violences physiques.
Physiques.
Cet homme pratiquait de la boxe thaïlandaise. Moi, j'étais toute menue, il faisait 1m68, il faisait 1m90, tout musclé. Donc, je commence à avoir des hématomes un peu partout. Je dis à ma mère, non, je ne veux pas me marier, cet homme me violente. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, non, tu vas te marier, tu vas sortir de la maison avec la robe blanche, tu vas te marier. Elle m'impose ce mariage que je refuse et je lui dis, il me bat. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, on se fait tout battre, c'est la vie, c'est normal, allez, tu y vas. Et ne pouvant pas repousser l'autorité de ma mère, j'y vais.
Vous étiez contrainte, donc.
Ah oui, c'était
un mur.
C'était forcé, moi j'avais des parents très autoritaires. J'y vais, mais je me dis.
Je voulais savoir comment restaurer le lien avec votre mère, parce qu'à ce moment-là, évidemment, je comprends cette mère autoritaire, l'enfant abusé, une mère autoritaire. Comment est-ce qu'il y a une tentative de restaurer quelque chose, ce lien justement entre mère et fille?
C'est difficile. Hein. C'est le poids de la mère dans.
Donc pour vous, la mère aujourd'hui, elle est encore vivante, votre mère?
Oui.
Votre mère aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que c'est votre mère, c'est la trahison? Votre mère, c'est le paroxysme? Votre mère, c'est la blessure, c'est quoi votre mère?
Bah, c'est tout.
Aujourd'hui,
c'est ma mère.
Vous lui en voulez?
Je lui en ai profondément voulu. Il y a eu une rupture pendant plusieurs années et j'ai pardonné. J'ai pardonné.
Pourquoi vous avez pardonné?
Parce que pardonner, c'est guérir, ouais, tout simplement. Et donc après le mariage.
Et une fois que vous lui avez pardonné, oui, elle comprend le passé douloureux?
Elle le comprend toujours pas. Je voulais juste en revenir aux violences conjugales avant de revenir sur ma mère, parce que c'est parce que les mères aussi ont un rôle assez particulier. Donc cet homme me bat quotidiennement. Je suis un punching ball. Il me bat enceinte. J'accouche d'un enfant de 500 grammes à 5 mois et demi.
Prématuré.
Un très, très très grand prématuré, oui. Pendant 2 ans, pendant presque 1 an. Alors déjà réanimation néonatale, moi je pensais que j'avais perdu mon enfant. Ensuite pendant 2 ans en HAD, hospitalisation à domicile, et ça continue et ça continue. Donc pendant 6 ans,
de violence conjugale.
Pendant 6 ans, je subis des violences conjugales, menaces au couteau, jusqu'au jour où.
Pourquoi vous avez gardé ça alors qu'on connaît évidemment maintenant ce que vous avez vécu durant votre enfance? Pourquoi vous avez accepté évidemment pendant 6 ans? Ces douleurs, ces coups, c'est
parce que pour moi c'était normal. Parce que il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence verbale. Pour moi c'était normal d'être insulté, d'être bafoué, d'être dénigré, d'être. C'était une suite logique. Allez, c'est normal. Allez, fais ce que tu veux de moi. J'étais un objet. C'est pas grave. Je n'existais pas. C'est vous savez, il a été prouvé que quand on a été victime d'abus sexuels, on va vers les bourreaux de toute façon. Et pour moi je n'étais rien, donc et puis ma mère qui avait été victime aussi de violences conjugales, elle me disait que c'était normal, donc et en fait ce corps après on le ressent plus, donc les coups de poing, les coups de pied, on les ressent plus, les hématomes, et ben ça nous fait plus rien, c'est normal, et puis les insultes, et ben on s'y habitue,
vous finissez par les intégrer.
Tout à fait,
ça fait partie de votre vie.
Oui, pour moi je suis rien, je ne vaux rien, je n'existe pas.
Et à 38 ans vous décidez de tout dénoncer. Quel a été l'élément déclencheur? Cet élément déclencheur, qui c'était? C'était quoi précisément?
Alors pour les violences conjugales, ça a duré 6 ans. Et quand j'ai vu mes enfants souffrir de ces violences, parce qu'il y a le regard des enfants aussi, hein. Le père qui commence à sortir un couteau, là je me dis non, c'est pas possible. Là après, on n'en peut plus, on n'en peut plus. On se dit ça suffit, stop. Donc là, j'appelle mon père. Mon père vient, j'avoue, parce que j'en parle à personne, hein. Ni à mes amis, je ne dis à personne ce que je subis. Je vais travailler, je souris, je m'habille, je me maquille.
Vous dites, ne pas en parler, c'était tabou.
Mais j'ai honte. J'ai honte de dire que je me fais tabasser. C'est inimaginable pour moi. J'arrive au bureau plein sourire, quoi. C'est inimaginable de dire et impensable d'aller raconter que je me fais tabasser tous les soirs, quoi. C'est impensable.
À 38 ans, vous décidez de prendre les choses en main. Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous pousse à tout vider ce sac?
Alors, il faut savoir...
Qui était trop rempli, beaucoup trop.
Alors, il faut savoir que moi, déjà, après mon premier enfant, je fais un baby blues terrible. Je recommence les scarifications, une tentative de suicide. Parce que vous savez, quand vous êtes enceinte, l'enfance remonte. Hein. Donc, thérapie, rupture de thérapie, je reprends la thérapie, hein, je travaille sur l'inceste. Donc à 38 ans, donc je rentre au ministère de l'Intérieur, un haut fonctionnaire qui voit en moi une forme de détresse, une forme de tristesse et en même temps un potentiel, me prend sous sa coupe et m'accompagne. Et il est mon tuteur jusqu'à présent. Et j'explose, et je lui raconte tout ce que j'ai subi. Et ça a été la première personne à qui j'ai raconté tout ce que j'avais subi dans mon enfance. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je me disais, c'était trop. J'en pouvais plus. Je faisais des crises d'angoisse. Je faisais des crises de panique, je faisais des crises de tétanie. Mon corps n'en pouvait plus.
Ça vous a aidé, Hassina Ajlarbi, cet accompagnement de tutorat?
Oui, parce que...
Ça vous a aidé aujourd'hui?
Alors, ça m'a aidé parce qu'en fait, ce tuteur m'a beaucoup accompagnée parce que j'ai quand même par la suite après 6 ans j'ai divorcé, j'étais seule, j'ai élevé mes enfants seuls avec toute cette souffrance qui est en moi, donc porter cette souffrance, élever ces deux enfants, être mère isolée, donc l'isolement plus porter toute cette souffrance de l'enfance et avoir ces deux enfants, Et j'en pouvais plus, j'étais à bout de souffle.
Hassina, qu'est-ce que finalement vous suggérez à celles et ceux qui je vous ai interpellé la semaine dernière en vous disant qu'on a été assaillis d'appels, justement de témoignages de femmes qui sont venues témoigner sur notre antenne la semaine dernière. Elles étaient très nombreuses.
Oui.
Et je les remercie. Qu'est-ce que vous leur dites?
Femmes, levez-vous.
Est-ce que le tutorat, par exemple, d'être accompagné par un tuteur, c'est important?
Ça peut être, en fait, ça peut être une alternative. Mais la première des choses, c'est de libérer la parole. Il faut parler. Il faut parler, alors, pas parler à n'importe qui. Alors déjà, la thérapie, parce que tout à l'heure, quand vous m'avez demandé quels étaient les piliers pour rester debout, j'ai omis de vous dire la thérapie. Aller voir un psy, parce que la parole, ça libère. Et ça vous aide. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai commencé une thérapie très jeune. Jusqu'à maintenant, je suis en thérapie. Toutes les semaines, je vais voir un psy. Parce qu'il faut déverser, il faut parler. Parce que si vous ne libérez pas la parole, mais vous mourrez. C'est un cancer de l'intérieur. C'est pas possible. Vous pouvez pas survivre. Parce que déjà, on est en survie. Mais si vous ne parlez pas, mais déjà, vous avez la mort en vous. Mais après, c'est le décès.
Oui.
C'est le passage à l'acte. Donc, à un moment donné...
Qu'est-ce qui vous permet de... Je vous ai posé la question, mais j'ai bien compris.
Oui.
De tenir aujourd'hui. Comment s'organise votre vie aujourd'hui?
Ben écoutez, je travaille au cabinet du préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume. J'ai mon tuteur qui m'a accompagné aussi pour passer le concours d'attaché du ministère de l'Intérieur. Je me suis réconciliée avec ma famille, je me suis réconciliée avec ma mère, j'ai mes deux enfants, mes amis, je suis bien entourée. Je vais pas vous dire que la vie est rose, hein, c'est pas vrai, non.
Vous êtes secouée tout le temps?
Non, j'ai...
C'est des tranches de vie. Ça dépend des jours.
Alors, en fait, par exemple, la période de Noël, elle est difficile pour moi. Parce que...
Elle vous renvoie à quoi?
Elle me renvoie à une période où j'ai subi des abus. La période de Pâques, elle me renvoie aussi à une période où j'ai subi des abus. Donc il y a, vous savez, c'est chronique, en fait, voilà, c'est chronique. Et
vous savez que là, à ce moment où je vous parle,
oui.
D'ailleurs, j'ai complètement oublié d'ouvrir l'antenne,
oui.
Tellement j'étais plongé dans ce que vous me racontiez, mais j'ai envie de dire tant mieux.
Oui.
Et j'ai complètement zappé, effectivement, d'ouvrir l'antenne pour les auditrices. Elles sont très nombreuses à nous écouter ce soir. Ou nombreux. Qu'est-ce que vous livrez comme message à Sina, Hadj, Larbi? Qu'est-ce que vous leur dites?
Alors, j'ai envie de... Alors déjà, femmes, levez-vous. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme et de la femme. Et vous ne devez pas accepter les violences, quelles qu'elles soient, que ce soit des violences verbales, violences physiques, n'acceptez pas.
Il faut briser tout de suite.
Voilà, briser le silence. Et on a quand même un mouvement qui a pris forme il y a 2 ans avec MeToo, là-bas. La parole s'est libérée. J'aimerais que les femmes musulmanes rejoignent ce collectif mondial, parce que les violences conjugales, les abus sexuels et l'inceste, ça touche toutes les communautés, ça touche le monde entier. Et je ne vois pas et je n'entends pas assez de femmes françaises musulmanes.
Libérez-vous.
Oui, libérez-vous, parce que je sais à quel point c'est difficile, car dans nos familles, le déshonneur, la honte qui pèse sur nous, parce que l'agressé est coupable, et le déshonneur que cela peut causer à la famille, fait que nous gardons le silence.
Absolument. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, Hassina Hadj Larbi. Merci, un grand merci à vous.
Merci.
Grand merci, vraiment. J'ai compris que vous vouliez rédiger, écrire un livre, un ouvrage. Donc j'espère, je vous le souhaite, en tout cas c'est pour bientôt.
Oui.
En tout cas c'est en cours, on vous le souhaite évidemment. Et vous reviendrez en parler de cet ouvrage. À la réalisation, c'était Yanis. Merci infiniment, merci beaucoup évidemment de ce témoignage extrêmement bouleversant. Et qui servira, je le souhaite, d'exemple à toutes.
J'espère.
Demain, c'est la ministre de la Ville, Madame Nadia Hay, qui sera avec nous ici même sur ce plateau pour faire un point sur le quartier populaire. La ministre, donc, demain, en direct, et vous pourrez l'interpeller. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net.